Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro pour cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. Eh bien, avec une population qui vit de plus en plus longtemps au Québec, ben, c'est sûr que notre société fait face à un certain défi démographique. Mais à mon sens, c'est pas juste un défi de société, c'est également un défi pour chaque personne, c'est-à-dire chaque personne elle-même se demande comment je fais pour rester au sommet de ma forme, comment je reste au sommet de ma forme physique et cognitive également. Eh bien, il y a une étude, un projet d'étude qui a été mené par l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal qui démontre que l'essentiel, c'est de bouger tout simplement. Et j'en parlerai en deuxième partie d'émission avec l'un des chercheurs, Nicolas Berryman, physiologiste de l'exercice. L'exercice, oui, à l'Institut national du sport du Québec. Mais d'abord, en première partie, la douleur chronique, souvent mal comprise encore, mal perçue, souvent à l'origine de plusieurs jugements, de stigmatisation aussi. Pourtant, elle touche, et ce, selon l'Association québécoise de la douleur chronique, plus de 1 500 000 Québécois. C'est énorme. C'est 20 % de la population ici au Québec. Et quand on parle des personnes âgées, bien, ça monte à 50 % de la population. C'est la semaine québécoise de la douleur chronique qui se poursuit jusqu'au 8 novembre. Donc, c'était pour moi un moment privilégié d'en parler et je le fais dans quelques instants avec Dr Aline Boulanger, anesthésiologiste, directrice des cliniques de la douleur du CHUM et de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Bonjour, Dr Boulanger.
Oui, bonjour.
Vous avez une petite toux, on va vous prendre de cette façon. on se parle aujourd'hui, bon, évidemment, on parle de douleurs chroniques et vous le savez mieux que moi encore, ça a un impact majeur dans la vie des gens qui en souffrent, sur leur entourage, évidemment aussi. Et c'est pour ça que c'est primordial de tenter de soulager cette douleur-là. Mais c'est pas facile de trouver les bons traitements. Il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de l'usage des opiacés dans le traitement des douleurs chroniques. Est-ce qu'on prescrit les opiacés de façon systématique quand quelqu'un souffre de douleurs chroniques?
Non, pas nécessairement. À vrai dire, si vous prenez les études concernant le traitement des gens qui ont de la douleur chronique, c'est 20 % des patients qui présentent de la douleur chronique qui vont prendre des opiacés dans une des périodes de leur vie.
Est-ce que c'est efficace à 100 %
C'est pas efficace nécessairement à 100 %. À vrai dire, c'est quand même des produits qui ont une capacité analgésique là, de soulagement qui est très importante. Mais pour bien des situations, il va y avoir une amélioration de la condition parce que si on essaie d'avoir un soulagement vraiment très optimal, le meilleur possible, ça peut s'associer à des effets secondaires.
Quand on parle d'opiacés, bon, moi, en préparant l'émission, bien sûr, je me suis renseignée. Je ne savais pas trop de quoi il était question. J'y allais d'entrée de jeu là, avec morphine, héroïne. Est-ce que c'est ça, les opiacés? Évidemment, ce n'est pas ça que vous prescrivez, là, mais pour que le grand public comprenne bien de quoi il est question.
À vrai dire, les opiacés, c'est des produits qui sont des dérivés de l'opium. Alors, il y a une extraction qui s'est faite de certains produits de l'opium et ceux-ci sont soit modifiés en laboratoire pour former les différents opiacés. La morphine en fait partie. Mm-hmm. C'est un produit qu'on prescrit, effectivement, mais ça peut être aussi le dilodide, ça peut être l'oxycodone. L'héroïne au Canada n'est pas une prescription, n'est pas offerte en prescription aux patients, mais il l'est en Angleterre.
Ah oui, vous m'apprenez quelque chose. Dans quel cas on va prescrire l'héroïne?
Dans des situations de soins palliatifs. Alors, c'est considéré, c'est un opiacé, comme les autres que je vous ai nommés tout à l'heure. Et en Angleterre, dans le cas de soins palliatifs, ils vont être offerts aux patients.
OK. C'est quoi les effets secondaires de ce médicament-là?
La grande famille des opiacés ont tous un peu les mêmes effets secondaires qui sont principalement de la constipation. Il peut y avoir de la somnolence, des étourdissements, il peut y avoir des démangeaisons, rétention urinaire, mais parmi les effets secondaires, la plupart vont diminuer avec le temps, sauf la constipation, qui, elle, malheureusement, persiste.
Et bien sûr, il y a des recommandations, comme par exemple, je pense à l'alcool. Ça fait vraiment pas un bon ménage avec les opiacés.
Ouais. Tout ce qui est opiacé peut causer une certaine sédation. Et donc, tous les autres médicaments qui ont le même pouvoir de causer de la somnolence vont pouvoir interagir avec les opiacés et donc augmenter l'effet de somnolence. Puis l'alcool peut en faire partie.
Vous le disiez tout à l'heure, c'est dans le cas d'à peu près 20 % qu'il y aura prescription. Qu'est-ce qui fait que vous prenez cette décision-là ou pas de prescrire des opiacés?
Règle générale, pour ce qui s'agit des patients avec de la douleur chronique, les opiacés font pas partie des premiers choix de médicaments.
Okay.
Habituellement, ils vont être deuxième ou troisième choix selon le type de douleur que présente la personne. Et souvent, avant de tenter les opiacés, on aurait essayé l'acétaminophène, qui est notre Tylenol là, qu'on a tous sur les tablettes de pharmacie. Ça pourrait être aussi des anti-inflammatoires qu'on va prescrire. Ça, c'est surtout dans les cas de douleurs musculaires, articulaires, des douleurs liées à des tendons qui pourraient être blessés ou autres. Et on va utiliser, lorsqu'il s'agit de douleurs un peu plus complexes, qu'on appelle les douleurs neuropathiques, où c'est le nerf lui-même qui est endommagé, les médicaments qu'on va utiliser en premier choix vont être curieusement des antidépresseurs,
ah oui.
Pas parce qu'on croit que la personne est déprimée, bien au contraire, mais ces médicaments-là ont vraiment des propriétés pour soulager un nerf qui est endommagé, ou encore des médicaments pour l'épilepsie aussi, qui ont les mêmes propriétés, et éventuellement, si ces produits-là échouent, ou encore si la personne a des problèmes de santé qui font en sorte qu'on ne pourrait pas leur prescrire ces produits-là en premier lieu, mais on peut aboutir à des opiacés éventuellement.
Docteur Boulanger, le 27 octobre dernier, la journaliste Katia Gagnon publiait un article dans la presse « Médecins et pharmaciens, les nouveaux pocheux ». Elle posait cette question-là et elle mettait sur la table la facilité, en fait, d'obtenir des opiacés, que ce soit des prescriptions en clinique ou encore en pharmacie, le médicament lui-même. Moi, j'ai envie, bien sûr, de questionner avec vous l'accoutumance qu'on peut développer aux opiacés. Est-ce que ça va de soi? Est-ce que tout le monde en développe? Est-ce que c'est une accoutumance très forte qui se développe?
Mais il faudrait peut-être distinguer deux choses. Et puis, c'était peut-être une des difficultés au niveau de l'article. C'est qu'il y a deux termes qu'il faudrait distinguer. Au niveau accoutumance, c'est un terme qui est très général et puis qui peut servir à plein de choses. Si vous voulez bien, dans le cadre de l'entrevue, on va utiliser deux termes, puis on va les définir, ce qui fait que par la suite, ça sera plus facile pour expliquer à vos auditeurs. On peut parler en premier lieu, mettons, de la toxicomanie. Puis la toxicomanie, c'est vraiment l'individu qui consomme de façon inappropriée, qui devance ses dosages, qui s'injecte, qui inhale, et il les prend vraiment dans une situation qui n'est pas du tout pour soulager sa douleur. Alors, ça, c'est le patient toxicomane.
Et qui n'est pas médical, nécessairement.
Et qui n'est pas nécessairement médical.
Oui, pas nécessairement.
Donc,
ouais.
Qui peut être un toxicomane de la rue, vous avez totalement raison. Dans la publication de Mme Gagnon, elle faisait référence à certains individus qui, eux, l'auraient développé, cette toxicomanie-là, suite à des prescriptions médicales. Alors, c'était une grande partie de l'enjeu des articles de Mme Gagnon. L'autre volet qui est dépendance et qui est souvent utilisé aussi dans l'article et ce qui peut peut-être amener justement de la confusion, c'est que la dépendance physique, elle, la dépendance physique, c'est une réaction qui est naturelle. C'est une réaction qui va se produire chez à peu près tout le monde lorsqu'on prend de façon régulière des opiacés. C'est le corps qui s'accoutume à ce produit-là et il y a beaucoup de médicaments qui provoquent ça. Exemple, les médicaments pour l'hypertension vont provoquer une dépendance physique et la façon dont le corps va exprimer cette dépendance physique-là, c'est lorsqu'on arrête brutalement le médicament, il y a une réaction de sevrage. Et ça, c'est normal. Et ça ne veut pas dire que la personne est toxicomane pour autant. Donc, il y a vraiment deux choses. Alors, si vous me posez la question, est-ce qu'on devient dépendant rapidement? La dépendance physique Oui, elle s'installe. Mm-hmm. Elle s'installe pour à peu près tout le monde en dedans d'environ 2 semaines. Mais ça ne veut pas dire que la personne est devenue une toxicomane.
Oui, je l'entends bien et je sais bien qu'en tant que professionnelle de la santé, en tant que médecin et directrice de ces cliniques de la douleur, vous avez aussi le souci, et en tout cas c'est ça que j'entends, de protéger vos patients qui vivent, comme je le disais d'entrée de jeu, une espèce de stigmatisation de tu prends des médicaments, est-ce que tu vas en prendre toute ta vie, ça a un effet sur ta santé, sur toi et tout. Et ces gens-là n'ont pas nécessairement envie non plus de prendre des médicaments toute leur vie.
À vrai dire, la plupart des souffrants chroniques, contrairement à ce qu'on peut avoir comme perception, n'ont pas le goût de prendre des médicaments. Aimeraient s'en débarrasser dès qu'ils le peuvent. Plus souvent qu'autrement, il faut leur expliquer, parce que plusieurs, lorsqu'on lui parle de narcotiques, de morphine ou autre, vont avoir le réflexe qu'on a tous eu, parce qu'on a tous eu à peu près cette éducation-là, comment c'est dangereux de prendre des opiacés et puis comment est-ce qu'on peut devenir toxicomane. Je ne veux pas donner l'impression que je minimise l'impact négatif et le risque de toxicomanie. Il est là. Mais il demeure que la majorité des patients souffrant de douleurs chroniques utilisent leur médication de façon totalement appropriée. Mm-hmm. On parle de 97 à 99,8 % des gens, dépendamment des études qu'on regarde, qui vont être totalement appropriés dans leur prise médicamenteuse.
Mais dans le cas d'une dépendance physique, et là, on parle de quelqu'un qui prend des opiacés pour soigner ou traiter sa douleur chronique. S'il souhaite arrêter, a-t-il besoin d'un sevrage?
Oui, il sera préférable qu'il ait une diminution progressive des dosages. Ça peut être plus ou moins rapide selon la personne. J'ai vu occasionnellement des gens être capables de l'arrêter brutalement, leur médicament, sans qu'ils aient aucun problème et sans qu'il y ait eu de réaction de sevrage négative chez eux. Mais pour la plupart des gens, il faut les diminuer lentement.
Lentement. Est-ce que ça vous inquiète? Bon, je reviens à cet article-là qui soulevait, en tout cas du moins pour le grand public qui n'était pas nécessairement au courant, une espèce de problématique. Est-ce que vous, ça vous inquiète? Est-ce que vous avez l'impression qu'une banalisation autour de la prescription d'opiacés ou de la vente également?
Écoutez, je pense que tout le monde est préoccupé. À présent, c'est sûr qu'on a un système de santé qui est mis sous pression et parfois, on n'a peut-être pas le délai voulu, surtout dans les cliniques sans rendez-vous, là, pour pouvoir avoir le temps à investir et à évaluer un patient. Lorsqu'un médecin de famille travaille dans son bureau, il revoit régulièrement le patient, le profil du patient qui semble développer des problèmes nous apparaît plus facilement que évidemment, si on est dans le sans rendez-vous. Mm-hmm. Alors, le patient qui devance ses dosages, le patient qui perd ses pilules, on le voit venir plus, évidemment, que le pauvre médecin qui, lui, a une dizaine, 15, 20 minutes devant lui pour se faire une idée de la bonne foi du patient. Et en tant que médecin, on est éduqué à croire et à reconnaître la bonne foi du patient. Donc, c'est difficile, vous savez, d'identifier rapidement les gens qui veulent abuser.
Oui, certainement. Et après, d'avoir une espèce de contrôle, parce que ce qu'on apprenait également, c'est qu'il y a une espèce de trafic illégal d'opiacés qui, dans la société, qui peut être un phénomène assez inquiétant.
Oui, tout à fait. Ça en revend malheureusement beaucoup. On est tout à fait conscient. Remarquez qu'on connaît maintenant quels sont les facteurs de risque qui prédisposent une personne à éventuellement abuser.
Ah ouais.
Donc, on essaie d'avoir toujours la discipline de vérifier ces facteurs de risque-là. Éventuellement, quand le dossier Santé Québec sera complètement déployé et fonctionnel, mais éventuellement aussi, on pourra aller vérifier si la personne a été chercher des prescriptions ailleurs ou dans d'autres pharmacies récemment. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place pour améliorer la situation. À présent, si vous me demandez si un jour on va réussir à vaincre tout ça, je le voudrais bien, je le souhaiterais bien, mais il est loin d'être sûr qu'on va réussir à le faire parce que j'imagine qu'il y aura toujours des gens qui réussiront à passer entre les mailles du filet, vous savez.
Oui, certainement. Cette dépendance-là, et j'y reviens, et c'était bien clair, là, la différence entre dépendance physique et le phénomène de toxicomanie, est-ce parce que les opiacés sécrètent quelque chose qui, je pense, s'appelle l'endorphine et qui est une hormone qui est extrêmement importante pour nous, les humains.
Naturellement, les endorphines, on les sécrète au niveau de notre système nerveux. Ces substances-là ont la capacité de réduire l'intensité de la douleur. Donc, exemple, pendant un accouchement autre, on va en sécréter. À présent, les opiacés agissent sur les mêmes récepteurs. Mm-hmm. Et donc, vont aller provoquer un effet analgésique. Si quelqu'un les prend de façon très, très, très régulière, bien, son organisme va diminuer la production d'endorphines.
Ah oui, voilà. Donc, pour ce pourquoi il en a tant besoin, là.
Bien, c'est que on le diminue, mais c'est sûr que les endorphines à elles seules ne réussiraient pas à contrôler une douleur cancéreuse ou une douleur chronique rebelle qui persiste. Ils ont un certain pouvoir de pour atténuer la douleur, mais ils ne suffiraient pas à eux seuls.
Oui. Et maintenant, dans le 80 % des cas où vous n'avez pas à prescrire des opiacés, comment on traite la douleur chronique?
Bien, c'est qu'il y a pu y avoir différentes approches qui ont été offertes aux patients, que ce soit en réadaptation ou du côté physiothérapie, ergothérapie ou encore en psychologie. Donc, il pourrait y avoir eu des approches plus physiques ou psychologiques offertes aux patients. Il y a d'autres avenues médicamenteuses, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Et il y a différentes ressources aussi que le patient peut aller chercher. Exemple, on a une association, l'Association québécoise de la douleur chronique, qui existe au Québec et qui offre des groupes de support. Alors, juste le fait de participer à des groupes de support, pour bien des gens, il y a un apprentissage d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle façon, une nouvelle vision face à la douleur qui peuvent être aidantes. Ils offrent aussi une infirmière clinicienne qui peut répondre à leurs questions. Pardon, ma petite grippe revient en force. Alors, il y a différentes avenues qui sont offertes à nos patients pour le traitement de leur douleur.
Et aussi des méthodes alternatives comme entre autres le yoga, la méditation. Et on en parlera au cours des conférences, donc les grandes conférences, les conférences grand public, pardon, du CR CHUM. Et puis ça se poursuit jusqu'au 6 novembre. On laissera le lien pour assister et en apprendre davantage sur ces conférences-là qui sont offertes, je le rappelle, pendant cette semaine québécoise de la douleur chronique. Docteur Aline Boulanger, vous qui êtes directrice des cliniques de la douleur du CHUM et de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, merci beaucoup, ça a été extrêmement éclairant.
C'est un plaisir. Merci, au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour Nicolas Berryman.
Bonjour.
Vous êtes physiologiste de l'exercice à l'Institut national du sport du Québec et également signataire, si je peux dire, ou chercheur du moins, de cette recherche qui s'intitule « Tous les chemins mènent à Rome, activité physique et cerveau, l'importance est de bouger ». Et ce que je disais tout à l'heure, vous ne m'avez peut-être pas entendu, donc en ouverture d'émission, c'est que c'est une bonne nouvelle parce que c'est une responsabilité. Le vieillissement de la population, c'est pas juste une responsabilité pour la société, pas juste un défi pour la société, mais pour les gens qui vieillissent. Et bon, on est tous concernés. À savoir comment on se garde en forme et au sommet de cette forme cognitive-là, notre cerveau, comment on peut le garder en santé. Et cette recherche-là que vous avez menée en collaboration avec l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, c'est en fait, ça démontre un petit peu que toutes les avenues sont possibles et peuvent être bonnes.
En fait, ce que la recherche tend à suggérer, en effet, c'est que au-delà des méthodes d'entraînement, disons, conventionnelles, celles qui visent l'amélioration, par exemple, de l'aptitude aérobie, de la santé cardiovasculaire ou des méthodes qui visent les gains en force musculaire, ben, il y a d'autres méthodes qui peuvent être intéressantes justement pour améliorer les fonctions cognitives. On parle ici de méthodes d'entraînement qui vont viser davantage les habiletés motrices globales des individus.
Comment vous avez mené cette entrevue-là? Vous avez repêché des gens de 65 ans et plus, c'est ça?
Oui, voilà. Donc, on a affiché, on a fait des annonces un peu partout à Montréal, peut-être un petit peu plus vers l'ouest de l'île, vers l'Institut de gériatrie Montréal. Mm-hmm. Et puis, on a recruté donc des gens d'un peu plus de 60 ans qui étaient en bonne forme physique. Donc, il y avait, sans être des athlètes, c'était des gens qui ne présentaient pas de problèmes de santé majeurs. Et puis, donc, on les a inclus, là, des hommes et des femmes qui ont été invités à participer à ce projet qui était d'une durée qui s'est échelonnée, en fait, sur 14 semaines, là, si on prend en considération le temps consacré aux tests physiques et puis le temps consacré aux entraînements, bien sûr.
OK. Et vous avez séparé ce groupe-là en trois groupes.
Donc voilà, donc l'objectif, c'était de comparer trois méthodes d'entraînement. Comme je le disais un petit peu plus tôt, de façon classique, il était bien reconnu là, que l'entraînement aérobie, l'entraînement cardiovasculaire était bénéfique pour les fonctions cognitives chez les aînés. Mm-hmm. Un peu plus récemment, il y avait eu des démonstrations à l'effet que l'entraînement en force musculaire était aussi bénéfique pour améliorer les fonctions cognitives chez les aînés. Et nous, on voulait comparer également avec donc différentes méthodes, différentes modalités d'entraînement. Donc, il y avait un groupe là, qui s'est entraîné, qui combinait à la fois l'entraînement aérobie et l'entraînement en force. Sauf que l'entraînement en force était fait exclusivement pour les membres inférieurs. Mm-hmm. Il y avait un deuxième groupe où là, on reprenait le même type d'entraînement, sauf que l'entraînement en force était fait exclusivement pour les membres supérieurs, les bras. Mm-hmm. Et enfin, un troisième groupe qui, lui, faisait des activités pour développer les habiletés motrices globales. On parle ici de parcours de locomotion, de manipulation d'objets, d'apprentissage de certaines techniques de jonglerie, d'étirement, de flexibilité, de choses comme ça.
OK. Et ça vous a permis de déceler quoi?
Bien, en fait, on s'est rendu compte que il y avait seulement donc les deux groupes qui ont participé aux entraînements de la condition physique. Donc, les gens qui ont fait l'entraînement aérobie et l'entraînement de la force, ce sont seulement ces gens-là qui ont amélioré certaines modalités de la condition physique. Je pense ici à la composition corporelle, donc la répartition de la masse grasse et de la masse maigre. Mm-hmm. Ils ont aussi amélioré la santé cardiovasculaire telle que mesurée par la consommation maximale d'oxygène et ils ont amélioré aussi les composantes de force.
Okay.
Ce qui est intéressant, par contre, c'est que les trois groupes ont amélioré de façon similaire les fonctions cognitives que nous mesurions dans cette étude-là.
Ah, voilà. Okay.
Donc, c'est un petit peu une surprise. On ne s'attendait pas à ça. On croyait que nos interventions, disons, qui visaient la condition physique, allaient faire en sorte que les gens allaient bénéficier d'améliorations plus importantes des fonctions cognitives. Mais on s'est rendu compte que les améliorations étaient plutôt similaires. Alors là, on était un petit peu surpris au départ, mais rapidement, on a pu retrouver dans la littérature quelques recherches assez récentes sur lesquelles on a pu s'appuyer, puis qui viennent nous confirmer que ce qu'on observe, là, c'est un phénomène réel, c'est-à-dire que l'entraînement des habiletés motrices globales semble aussi intéressant pour améliorer les fonctions cognitives.
Et Nicolas Berryman, ça signifie quoi pour, et je m'adresse aux gens qui nous écoutent, qui ont peut-être 60, 65 ans et plus, qu'est-ce que ces gens-là ont à retenir de façon bien concrète dans leur vie de tous les jours?
Ben, je pense que le titre du communiqué de presse et de l'article lui-même est assez révélateur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome.
Mm-hmm.
Et je pense aussi que dans une perspective de progression, de planification de l'entraînement à long terme, ça peut être intéressant d'entrevoir peut-être une séquence de planification des exercices. Ce que ça veut dire, c'est que pour quelqu'un qui est plutôt sédentaire, ou même très sédentaire dans la vie de tous les jours, et qui se voit mal passer au gymnase du jour au lendemain, travailler à des intensités très élevées, peut-être que ça peut être une bonne idée de commencer simplement par des activités qui visent le développement des habiletés motrices globales, qui pourraient éventuellement être faites de façon peut-être un peu plus facile à la maison.
Donc,
une fois qu'on s'est bien adapté à ces entraînements-là, qu'on passe d'un mode très sédentaire à un mode un petit peu plus actif, alors là, peut-être que graduellement, on peut se mettre à des activités plus structurées d'un point de vue développement de l'aptitude aérobie ou de la force musculaire, par exemple.
Et moi, ce que j'entends par là, quand on dit tous les chemins mènent à Rome, c'est que, et vous me corrigez bien sûr si je me trompe, c'est que bouger, l'activité physique, ça peut être jardiner dans le potager, l'entretien de la maison, ces choses-là aussi concrètes.
Alors, faut faire attention. Je pense que la petite nuance ici à laquelle faut faire attention, c'est justement le lien entre les activités qu'on pratique et le développement l'amélioration des fonctions cognitives. Ce qui a été proposé dans notre projet, c'est vraiment des activités qui visaient les habiletés motrices globales. Donc, on va parler ici de parcours de locomotion avec obstacles à éviter.
OK.
Par exemple, activités de jonglerie, des choses comme ça.
Mm-hmm. Mais pas nécessairement, des choses que les gens peuvent faire à la maison.
Oui et non. J'apporte la nuance ici. Il faut être prudent là, avant de tirer des conclusions trop hâtives par rapport à tout ça. Oui, les activités qu'on peut faire à la maison peuvent être efficaces. Vous parliez de jardiner, faire toutes sortes d'activités à la maison, que ce soit des activités d'entretien à l'intérieur et tout ça, ça peut être bénéfique. Je pense que l'accent doit être mis aussi sur des activités un peu plus structurées qui, elles, vont favoriser, par exemple, un maintien de l'attention. Je pense, entre autres, quand on a affaire de la jonglerie, nos fonctions cognitives sont bien impliquées dans l'action, ne serait-ce que par l'attention qui est nécessaire pour mener à bien cette tâche-là. Donc, je pense que c'est peut-être une petite nuance qu'il faut apporter ici, là. Tous les chemins mènent à Rome, mais les mécanismes ou les façons d'atteindre les objectifs vont différer d'une méthode à l'autre.
J'aimerais bien voir mes parents se mettre à la jonglerie.
Ouais.
Je trouverais ça bien amusant.
Je garde de très bonnes images, de très bons souvenirs là, des séances qui avaient lieu dans le gymnase de l'Institut de gériatrie où effectivement, souvent, ça se déroulait là, avec beaucoup de sourires et même des éclats de rire.
Mais en terminant, Nicolas Berman, pardon, je pense que qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que l'activité physique, ça a des bienfaits, oui, pour la santé des personnes âgées, mais également pour leur santé cognitive.
Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est un message très, très important. Il faut trouver la façon qui nous convient, mais l'important, là, c'est vraiment de s'activer, de bouger. Et il ne faut pas oublier aussi, d'un point de vue, disons, de la condition physique, l'entraînement aérobie, l'entraînement de la force, ce sont les seules stimulations dans notre projet qui ont mené à des améliorations de la condition physique. Donc, éventuellement, ce sont des méthodes d'entraînement qu'il faut aussi, vers lesquelles il faut aussi tendre. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans une perspective de progression, peut-être que pour des gens sédentaires, ça peut être intéressant de commencer avec des entraînements qui, en apparence, sont moins intenses, mais qui peuvent aussi amener un aspect ludique, là, je pense, à des activités d'onglerie, des choses comme ça, comme on parlait tout à l'heure.
Nicolas Berryman, vous êtes physiologiste de l'exercice à l'Institut national du sport du Québec. Et pour consulter cette recherche, on peut aller sur le site de l'Institut de gériatrie de Montréal. Donc, l'Institut universitaire, oui, www.iugm.qc.ca. Tous les chemins mènent à Rome, activité physique et cerveau. L'important, c'est de bouger. Merci beaucoup, Nicolas. Au plaisir.
Merci à vous. Au revoir.
Merci, Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Bye-bye.